Comme nous venons de le chanter, nous te demandons tout simplement de prendre nos vies.
Prends nos vies, Seigneur.
Quand toi, tu les prendras.
Nous serons, ô mon Dieu, Père éternel, sous ton contrôle.
Toi seul, ô mon Dieu, Père, qui peux nous garder de toutes nos insuffisances, qui peux nous garder de toutes les attaques de l'ennemi. De par nous-mêmes, nous sommes incapables. C'est pourquoi nous comptons sur toi, comme nous venons de le chanter, que tu puisses prendre nos vies en charge. Sois-nous favorables pour ce soir, car tu as permis que nous puissions être autour de ta table, Seigneur. Nous n'avons aucun mérite. C'est ta grâce qui a fait que nous puissions être ici ce soir. Et comme c'est ta grâce qui a fait que nous puissions être ici ce soir, ce que je te demande, Père, que tu visites ton peuple, que tu puisses, ô mon Dieu, Père, répandre ton Saint-Esprit dans cet auditoire, que tu visites chaque cœur ici présent. Tu connais le besoin de tout un chacun. Nous voudrions donc nous remettre à toi, Seigneur Jésus, et nous comptons sur toi dans le moindre détail, ô mon Dieu, Père. Papa, le travail t'appartient. Et comme le travail t'appartient, nous sommes tes enfants. Nous avons répondu à ton offre. C'est pour cela que nous sommes là. Que tu nous accompagnes, que tu nous assistes. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades spirituellement et qui sont malades physiquement, Seigneur. Nous comptons tout simplement sur toi, Père, afin que tu leur accordes, ô mon Dieu, Père, ce dont ils ont besoin pour continuer la marche. Honneur et gloire te soient rendus, Père. Nous t'avons ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content. Et je dis merci au Seigneur qui nous a permis d'arriver en ce lieu pour prendre place autour de sa table. C'est un grand privilège d'écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de sa bouche, n'est-ce pas? Alors nous savons que la parole de Dieu pour nous, c'est une semence qui nous apporte des vitamines dont nous avons besoin pour continuer la marche jusqu'à sec, n'est-ce pas? Et nous sommes vraiment dans la joie parce que le Seigneur est là. Et comme il est là, lui, il fait toujours son travail d'une manière correcte. Il est très parfait. Il n'y a jamais eu de raté. Alléluia. Quand lui vous invite, vous devez vous mettre en tête que tout ira bien. Alléluia. Tout ira bien. Mais si un homme vous invite à la... Vous pouvez un peu avoir des inquiétudes, des incertitudes, parce que ce n'est pas certain. Mais quant à Dieu, quand il vous invite, il sait pourquoi il vous a invité, n'est-ce pas? Très bien. Nous voulons encore dire merci au Seigneur ce soir, parce qu'il nous a permis d'aborder un tout grand sujet qui a été la purification et la sanctification, n'est-ce pas? Nous avons vu beaucoup de réalités à travers ce thème. C'est un thème immense. Je ne peux pas oser dire ce soir que nous l'avons épuisé. Rien du tout. Merci pour les aspects que nous avons pu aborder. Et pour les aspects que nous n'avons pas pu aborder, le Saint-Esprit, selon le besoin de l'Assemblée, puisse revenir là-dessus. Alléluia. Pour le moment, nous allons lever les pieds et notre point d'orgue, nous l'avons vu la fois passée, quand le Seigneur disait, je reviendrai, alléluia, je reviendrai. Et j'avais expliqué, tout ce temps que nous avons fait sur cette campagne de les sensibilisations sur l'hygiène spirituelle, c'est pour que nous puissions déboucher sur « je reviendrai ». Alléluia. On ne peut pas y arriver sans que ces éléments-là soient préalablement abordés. Alors c'est là où nous avons vu attention. Si effectivement tu as dans ton cœur le projet d'être enlevé, tu dois te mettre en tête que Dieu a son standard. Alléluia. Il ne faut jamais l'oublier, Dieu a son standard. Et le standard de Dieu, trois mots, purification, paix et sanctification. Quand tu auras compris ce standard de Dieu, mon frère et ma soeur, que tu ne peux jamais abaisser et que tu ne peux jamais changer, parce que Dieu est Dieu. Il ne changera jamais son standard. Et quand tu as saisi cela, il faut maintenant te mettre en tête trois critères essentiels doivent se retrouver en toi pour t'attendre à la réalisation du promesse que le Seigneur a donné dans Matthieu 14, « Je reviendrai ». Trois critères essentiels. L'attendre dans la patience. Première chose. Et dans les signaux rouges de sa venue, nous avons lu ce que le prophète disait par rapport à ça. Deuxième critère, être prêt. Et nous avons fait allusion à Matthieu 25, verset 10, n'est-ce pas? Troisième critère, aimer son avènement. Alléluia. Alors, si tu réunis ces trois critères, maintenant tu vas t'appliquer à être, à te confier, à te soumettre et à obéir. Alléluia. Quand tu auras compris ces trois critères, il ne te restera plus qu'à te soumettre, obéir et à te confier à Dieu. Et lui fera les restes. Alléluia. En ce moment-là, sois-en sûr, mon frère, ma soeur, Dieu fera les restes. Parce que c'est son travail. Alléluia. Alors, ce soir, je voudrais vous inviter à vous lever. Nous allons lire dans trois endroits. Un, Samuel 28, 6, Psaume 34, 7, Sophonie 3, 17. Vous êtes au premier endroit? Tout le monde est au premier endroit? Nous pouvons lire? Nous pouvons lire? Non? Samuel 28, 6. Nous pouvons lire. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Deuxième endroit. Psaume 34, verset 7. Nous lisons, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Sophonie 3, 17. Nous lisons, Sophonie 3, 17, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et je vous invite à vous asseoir, qu'il puisse ajouter les bénédictions à sa parole. Amen. Voilà. Nous sommes devant trois matériels didactiques. Nous allons parler comme l'enseignant. Trois matériels didactiques. Le premier, c'est Samuel 28, 6. Le deuxième, c'est le psaume 34, verset 7. Le troisième, Sophonie 3, 17. De ces trois matériels didactiques, nous voudrions retirer le sujet que nous allons intituler « Face au silence de Dieu ». Face au silence de Dieu. Nous avons le cas de Samuel et le cas de Sophonie. Face au silence de Dieu. Franchement, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu pour apporter ce sujet. Pourquoi? Tout simplement lorsque nous avions abordé le thème de la prière, je n'avais jamais ça à l'esprit. Mais, après avoir tiré les rideaux sur les thèmes de la prière, du bien-aimé, on posait une question à mes frères. Quand n'est-il, quand Dieu est silencieux dans toutes les coutures? Je suis venu ici, je vous avais dit, à l'état actuel de ma connaissance, je n'ai pas envisagé cet aspect des choses. Mais comme vous venez d'en parler, je laisse ça entre les mains de Dieu, au temps voulu, je reviendrai et nous pouvons en parler. Alors ce soir, nous allons revenir sur cet aspect que moi je n'avais pas à l'esprit, mais l'assemblée de bien-aimés ont eu, après leur méditation, on dit, mais non. Que faisons-nous face au silence de Dieu? Nous n'allons pas aller vite en besogne pour aborder le sujet, mais je me fais toujours un devoir d'ouvrir le sens des mots que nous utilisons dans notre conversation. Face au silence de Dieu, Robert définit le mot silence en deux sens, en donnant deux sens. Le premier sens que Robert donne fait de ne pas parler. État, attitude d'une personne qui reste sans parler. Ça, c'est le premier sens de Robert. Le deuxième sens de Robert, il dit, fait de ne pas exprimer, de ne pas divulguer ce qui est secret. Bref, c'est une absence de bruit. Quand on parle de silence, c'est une absence de bruit. Mais, en méditant, il est apparu qu'il est bon de savoir les silences font partie intégrale de la communication. Ceux qui ont fait de la communication le savent. Ils voudront bien m'en excuser si je fais des erreurs, pas de fautes, des erreurs de contenu. Ils voudront bien m'en excuser. Ah, Abel est là. Il a les yeux comme ça. C'est son domaine. Alors, il existe de multiples silences. Ah oui. Le silence exprime quelque chose. Alléluia. Par exemple, une colère qui est contenue. Quand je prends un temps de réflexion, quand je suis dans l'incapacité de m'exprimer sur ma souffrance, sur mon chagrin, sur ma douleur, je ne parle pas. Mais cela ne voudrait pas dire que ça ne signifie rien. Je me mets en retrait par rapport à un sujet donné. Je me mets en retrait. Je m'isole. Alléluia. Peur de n'avoir rien à dire ou d'oser de prendre la parole. Ce sont là de multiples silences, mais qui expriment quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et quand nous avançons, les gestes et les attitudes, les mimiques, les expressions faciales font aussi partie de la communication. C'est pour cela, moi je prends toujours garde de ne pas régler les problèmes au téléphone. Vous savez pourquoi? Parce que moi je veux avoir les gestes et les attitudes et les expressions faciales. Ah oui, Farah Farah, comme disent les Congolais. Ah oui, pas au téléphone. Pas au téléphone. J'ai résolu de... Je ne t'appelle pas. Rien. On doit se voir de visu. Comme ça, j'ai l'entièreté de la situation. Les gestes, les attitudes, les mimiques, les expressions faciales. Vous voyez, ça vous donne des pistes. Ah, un oui avec un sourire, tu comprends? Un oui avec une bouche qui tourne pas. Tu vois tout ça, donc ça te permet de comprendre la situation. Ça, c'est moi, une résolution prise selon l'expérience dans ce job. Alléluia. Même en famille. Ah, mais oui, je t'ai appelé, pourquoi tu n'as pas répondu? Oui, non, non, on aura le temps de se voir. Alléluia. Qu'on se fixe rendez-vous. Ah, là, ça me permet de voir la personne qui est en face de moi et d'approfondir ce que la personne peut cacher. Alléluia. Ça, c'est la première possibilité de comprendre le silence. Alors, avant d'aborder attentivement le sujet que je trouve très délicat, voyons d'abord quelques considérations et quelques valeurs du silence. Considération. Je veux que nous remarquions ensemble dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 15. Ésaïe 45, verset 15. Je vous attends. Qu'est-ce que nous pouvons lire? Je lis ceci dans Ésaïe 45, verset 15. Il dit, « Mais tu es un Dieu qui te cache. » Waouh! Un Dieu qui te cache. Et la suite, c'est quoi? Dieu d'Israël, sauveur. Donc nous voyons ici deux qualités inséparables de Dieu. Alléluia. On nous dit qu'il caché plus quoi? Sauveur. Alléluia. Deux qualités inséparables de Dieu. Un Dieu qui se cache. Mais c'est un Dieu sauveur. Par moment, l'Éternel semble, certes, se cacher, mais en réalité, il est sauveur d'Israël. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43, verset 11, nous lisons, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Alléluia. Ce Dieu-là qui se cache, hors de lui, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, je veux que nous puissions réaliser, sur le 33 ans que le Seigneur a vécu sur la terre, il a vécu 30 ans caché. Vous avez déjà pensé à ça? Il a vécu 30 ans caché. Alléluia. Monsieur a vécu 30 ans caché. Ça change tout. Il est vraiment présent. Il est vraiment sauveur. Et il est vraiment caché. Ça, c'est la globalité de ce que nous appelons l'être Dieu. Alléluia. Mais il a quand même résolu ce problème en Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous lisons Colossiens 1, verset 26, nous voyons que Dieu se révèle. Alléluia. Il se révèle. Colossiens 1, versets 26 et 27. Comme ça, nous comprenons très bien ces éléments. Colossiens 1, versets 26 et 27, il est écrit, « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. » Alléluia. Il se révèle. Alléluia. À toi et à moi. Et dans Romains 1, nous pouvons voir Dieu se fait connaître par la création. Romains 1, Romains 1, versets 19 et 20. Nous lisons ceci. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Donc il faut bien comprendre ces choses. Dieu se cache, bien sûr, mais il est le sauveur. Mais il a réglé ses problèmes de cache-cache en Jésus-Christ. Alléluia. Par la révélation, à travers la création. Et enfin, nous avons une troisième possibilité. Romains 2, 15 nous donne cette possibilité. Nous connaissons Dieu par sa loi dans nos cœurs. Alléluia. Nous connaissons Dieu par sa loi dans nos cœurs, mon frère, ma sœur. Que tu sois païen, que tu sois croyant, mais Romains 2, 15 nous dit ceci. Commençons verset 14. Nous lisons, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Alléluia! Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend de témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Alléluia! Donc, première considération sur l'aspect du silence de Dieu. C'est Dieu qui se cache, mais ce problème a trouvé la solution. Alléluia. Alors, deuxième élément en termes de valeur, nous pouvons considérer les prophètes Esaïe dans 1 roi 19. Verset 13. 1 roi 19, verset 11 à 13. Je vous laisse le temps de lire ces deux versets. Après, je reviendrai vers vous. Un roi. Verset 19. Le 2, les versets 11 et 12. Lecture silencieuse. Après, je reviendrai vers vous. Tout le monde a lu? Tout le monde a lu du verset 11 au verset 13. Voici ma question. À quel moment Élie a reconnu le passage de Dieu? À quel moment Élie a reconnu le passage de Dieu? Trois manifestations naturelles dévastatrices se sont déroulées d'abord. Alléluia. Vent violent, tremblement de terre, le feu. Mais la présence de Dieu n'était pas signalée. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, je t'invite. Ce silence doit avant tout d'être écouté. Ah. Ce silence doit avant tout être écouté. Et cela demande un apprentissage. C'est après trois manifestations naturelles que le prophète Élie va reconnaître le passage de Dieu. Qui peut me lire ça, chef?
Ah,
un murmure doux et léger. Dans tout ce qui fait le bruit là, et vent violent, tremblement de terre, le feu, ça ne signale pas la présence de Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, sois-en rassuré. Sois-en rassuré. C'est dans un murmure doux et léger que Élie va reconnaître la présence de Dieu. C'est quand il a entendu la voix du silence. Pas le brrr, tremblement de terre, non. Alléluia. Élie a reconnu la présence de Dieu après avoir entendu. C'est quoi encore? Un murmure doux et léger. Je n'ai pas le temps de donner le sens de ces trois mots. Murmure doux et léger. Vous rentrez à la maison, un devoir à domicile. Alléluia. Pour bien comprendre. Alors, mon frère, cette voix du silence va dépendre du niveau de ta conscience. Ça dépendra du niveau de ta conscience dans lequel tu es. Je donne trois exemples simples. Tu es envahi par des émotions. Tu vis des insatisfactions, des frustrations au boulot, à la maison, dans ton couple. Tu traverses une épreuve et tu en cherches le sens. Mon frère, dans cette situation-là, je t'assure, il sera difficile que tu puisses entendre la voix du silence. Et si tu es superficiel, tu ne peux non plus entendre la parole du silence de Dieu. Aussi, s'il y a des bruits autour de toi, et en toi, à frère, à moi, oui, il y a du bruit en toi. Ah oui, il y a du bruit en toi. Alors, il faut être entraîné parce que, quand vous voyez le cas d'Élie, dans quelle situation il était? Il était en train de fuir Jézabel. Donc ce monsieur a appris d'entendre les silences de Dieu. Alléluia. Il était au-dedans de lui, traversé par des soucis. Jézabel en voulait à sa vie, mais il ne s'est pas précipité quand il a entendu le vent violent, quand il a entendu le tremblement de terre, quand le feu était là. Non. Donc, si nous prenons l'exemple d'Élie, c'est pour cela que je disais, un apprentissage est nécessaire. Alléluia. Un apprentissage est nécessaire. Pour cela que je disais, cela dépendra surtout du niveau de conscience dans lequel tu te trouves. Alléluia. On peut avancer? C'est clair? Niveau de conscience dans lequel on se trouve. S'il y a des bruits autour de toi, tu oublies. Mon frère, ma soeur, ce soir, c'est quand même une évidence que pour écouter la radio, il faut être sur la bonne fréquence. Frère Robert, n'est-ce pas? Pour écouter la radio, il faut être sur la bonne fréquence. Frère François qui aime toujours écouter la radio. Si tu n'es pas sur la bonne fréquence, tu ne vas pas écouter ton émission. Ça sera embrouillé. Alléluia. Il faut être sur la bonne fréquence. Et la fréquence de Dieu, malheureusement, n'est pas celle de l'homme. Alléluia. La fréquence de Dieu n'est pas celle de l'homme. Le moment où il veut te parler, toi tu es distrait, tu es dans le bruit. Tu es emporté par ton problème. bon, tu n'auras pas l'émission. Alléluia. Deuxième valeur, du silence. Dans la pratique quotidienne, il y a lieu de reconnaître que tu as besoin du silence pour penser, pour réfléchir, n'est-ce pas? Tu restes en toi-même pour savoir quels sont tes vrais désirs. Le silence est donc un sésame pour trouver la paix du cœur devant les difficultés de la vie. Alléluia. Quand ça chauffe, il faut parfois se mettre en retrait. Alléluia. Quand ça chauffe, tu n'as toujours pas besoin de te montrer que voilà, je suis là, je suis présent, j'occupe les terrains, je ne suis pas absent. Ça ne sert à rien. Alléluia. Le silence, c'est un sésame qui va te permettre de bien saisir les situations de la vie. Alléluia. Alors, après ces considérations, je voudrais entrer doucement dans ce sujet délicat. Lorsque nous avons abordé le thème de la prière, 5 points ont été mis en évidence dans tous les thèmes de la prière. Entre autres, la réponse à la prière consiste à recevoir avec les différents aspects des réponses que Dieu peut donner. Alléluia. Nous avons dit, Dieu pouvait dire oui, à l'instant même. Alléluia. Première possibilité. Deuxième possibilité, nous avons dit, Dieu peut dire non après ta prière. Alléluia. Et troisième position, nous avons dit, Dieu peut te dire, attends un peu. Alléluia. Ce sont là les trois possibilités que nous avons mis en évidence. Mais le frère et les sœurs ont amené cette quatrième possibilité qui fait l'objet de notre prédication ce soir. Alléluia. Face au silence de Dieu. Nous n'avons pas envisagé cela dans notre thème. Mais comme c'était une nécessité pour les enfants de Dieu, nous revenons là-dessus. Quatrième possibilité donc, il y a oui, non, attends un peu, et puis il y a le silence complet. Alléluia. Alléluia. Ouvrons nos oreilles. Je disais, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour essayer, je dis bien pour essayer, de m'exprimer convenablement afin que nous puissions être édifiés. Premier matériel qui va nous permettre de comprendre le silence de Dieu, nous, enfants de Dieu, prenons le matériel de Samuel 2, 26. Samuel 28, 6. Prenons ce matériel. Premier matériel à exploiter. Premier Samuel 28, verset 6. Il est écrit. Saoul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète, chaos total. Alléluia. Chaos total. On peut éteindre la lumière parce qu'on ne voit plus rien. Alléluia. Contexte du silence dans le cadre de Samuel, de Saoul plutôt. Dieu s'est retiré de Saoul, nous le savons, n'est-ce pas? Maintenant, Saoul est attaqué par les Philistins. Saoul ne sait quoi faire. Et comme il ne sait quoi faire, Verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Vous voyez son état? Et le verset 6, c'est là où l'on nous dit, Saoul consulta l'Éternel, mais l'Éternel refusa de lui répondre. À cause de quoi? Quand nous avons vu le thème de la prière, nous avons aussi abordé les obstacles à la prière, n'est-ce pas? Donc ici, nous pouvons déduire rapidement, Dieu ne répond pas à Saoul à cause de son impiété et de sa désobéissance selon 1 Samuel chapitre 15. Alléluia. 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 7 jusqu'à 35. Alléluia. Ici, Dieu reste silencieux et son silence est motivé. Alléluia. Son silence est bien motivé parce que Saoul a été désobéissant. Alors ici, nous comprenons facilement que le silence est dû au péché. Et le psaume 66, verset 18, dit ceci, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Alléluia. Donc, Saoul, après avoir conçu l'iniquité dans son cœur, le Seigneur lui tourne le dos. Alléluia. Le Seigneur ne lui répond pas. Donc ça ne sert à rien. Tu ne seras pas branché. Tu n'es pas à la bonne fréquence. Alléluia. Les fréquences sont brouillées. Tu peux rester toute une nuit. Alléluia. Tu peux rester toute une nuit, rien du tout. Et vous avez vu où est-ce que ça a mené Saoul? Jusqu'à aller braver l'interdit. Alléluia. Il va se déguiser. Il a pris d'autres vêtements. Il est parti avec deux hommes. Ils arrivaient la nuit chez la femme. Saoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Mais c'est interdit. C'est interdit. Nous sommes plusieurs comme ça. Hein? Tu es dans la gadoue, dans une situation difficile, au lieu de t'arrêter, de trouver, d'avoir une bonne attitude, mais tu sombres de plus en plus. Alléluia. Tu sombres de plus en plus. On te montre, mais mes frères, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu vois la personne, lever des boucliers. Bon, ça va. Ça va, mais tu t'iras tout seul. Tu iras tout seul, mais j'ai les grecs, frère, je dis ça. Tu iras tout seul. Quand moi, je m'approche de toi, non pas que je suis meilleur que toi, non. Mais dans la situation qui te concerne, moi, je saisis très bien de quoi s'agit-il. Écoute. Alléluia. Donc le cas de Saoul est clair. Face au silence de Dieu. Et quand tu es dans cette position-là, tu dois savoir te remettre par terre. Alléluia. Te remettre par terre. Sinon, c'est la dégringolade petit à petit jusqu'à la tombe. Deuxième matériel didactique. Prenons le psaume maintenant 34, verset 7. Qu'un dans l'assemblée me lise ces versets à haute voix pour que tout le monde entende. Tout le monde a entendu là au fond? Vous avez entendu? Oh, Ça, c'est comme si c'était la voix d'une femme. Hein?
Je veux la voix d'un homme.
Chef, on n'a pas entendu. Oh, mais non. Puisqu'il y a des gens qui sont là.
Quand un malheureux crie, oui. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
Ah. Vous avez entendu? Quand un malheureux crie, que fait Dieu?
L'Éternel entend.
Qu'est-ce que Dieu fait?
Entend.
Il entend, hein? Ah, ok. Quand un malheureux crie, donc, toi et moi, quand nous crions, la Bible dit que l'Éternel entend, n'est-ce pas? C'est là où le bas blesse, face au silence de Dieu. Ici, tu notes avec moi, il y a une promesse claire. Oui ou non? Il y a une promesse claire. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Ça s'explique. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Mais, mon frère, ma sœur, il arrive des fois, tu as crié, je pense que c'est de là que partit la réflexion des frères et des sœurs. Il arrive des fois, tu as crié, tu as gêné, tu as médité. Alléluia. Alléluia. Alors que tu t'appuies hein, sur le psaume 34, verset 7. Seigneur, tu as dit quand un malheureux crie, non? Alors, je suis en train de crier. Ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois, ça fait 3 mois, je suis en train de crier. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas de réponse. Dieu, je dis bien, Dieu est muet comme une carpe. Alors, muet, il n'y a rien qui passe. Et pourtant, tu as gêné, tu as gémi. Alors, il y a une question. Comme la Bible donne une promesse certaine, quand le malheureux crie, Dieu l'entend. Question. Comment tu as crié? C'est bien de dire quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, comment tu as crié? Comment tu as crié? Pense un peu à ça, dans ton fort intérieur. Comment tu as crié, boss? Ah, c'est bien de dire quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Mais comment tu as prié? Tu as crié? Ah, c'est important. Tu as la réponse? Comment tu as crié? Mentalement, ça existe. Intellectuellement, ça existe. Ah oui. Comment tu as crié? Mentalement, intellectuellement. Et tu as crié avec foi? Ah, là c'est encore une autre dimension. Tu as crié avec foi? Pas n'importe quelle foi. La foi authentique venant de Dieu. Ah oui. La foi authentique venant de Dieu. C'est la seule façon appropriée pour que se réalise quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Alléluia. Alléluia. On se suit? Très important. La façon de crier. Mentalement, intellectuellement, où tu as crié avec une foi authentique venant de Dieu. Dans le message, j'ai entendu. Mais maintenant, je vois. À la page 12, suivez-moi bien. Je posais la question, comment tu as crié? Mentalement, intellectuellement, ou avec foi authentique venant de Dieu? Et si tu as crié avec une foi authentique venant de Dieu, je t'assure, c'est la seule façon appropriée pour que l'Éternel puisse entendre ton cri de malheureux. Alléluia. Et le messager dans la prédication, j'ai entendu. Mais maintenant, je vois à la page 12, paragraphe 66, il dit ceci. Voyez-vous, nous n'utilisons pas les dons de Dieu pour faire du commerce. Non, non. Il aurait pu me dire où ça se trouvait, mais je n'avais pas besoin de cela. Je n'aurais même pas assez de foi pour le lui demander. Voyez-vous, si j'en avais besoin, je crois que si je le lui demandais, il me dirait. Suivez-moi bien. Il me dirait. Mais premièrement, voyez-vous, vos motifs et vos objectifs doivent être justes. Alléluia. Vos objectifs et vos motifs doivent être justes. Vous devez avoir des raisons pour ceci. Dieu ne vous donne pas ces choses simplement parce que vous les demandez. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Et vous ne pouvez pas demander avec foi, à moins qu'il y ait un réel objectif et que cela soit dans la volonté de Dieu. Si vous voulez être en bonne santé, pourquoi voulez-vous être en bonne santé? Voyez-vous? Si vous voulez être guéri, pour quelles raisons voulez-vous être guéri? Que dites-vous à Dieu? Que voulez-vous faire avec votre vie lorsque vous serez guéri? Ah, guéris-moi, guéris-moi. Aïe, 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 aïe. Mais vous écoutez le messager, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie après avoir été guéri? C'est face à face avec lui, hein? C'est une conversation, n'est-ce pas? Voyez-vous, il doit y avoir, vous devez avoir un motif et un objectif. Ils doivent être justes et en accord avec la volonté de Dieu. Et ensuite, lorsque la foi vous est révélée et que Dieu, par sa grâce souveraine, place cette foi-là, alors c'est terminé. Voyez-vous maintenant? Voyez-vous? Paragraphe 70, il parle de Job. Ainsi Job s'examina et vit avec la foi véritable que Dieu lui avait donnée, qu'il était juste et qu'il avait fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire. Maintenant, avant que l'on prie pour nous, pour nos maladies, je me demande si nous avons fait tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Avons-nous suivi chaque iota de l'Écriture? C'est bien. Et dire, mais Dieu ne répond pas, ça fait 2 ans, 3 ans que j'attends. Parfois, ça bloque à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Ça peut bloquer à ce niveau-là. Et il faut que l'inspiration frappe sur ta conscience pour que tu te réveilles. Ah! Marche arrière pour que je rectifie afin que mes cris ou mon cri soit entendu pour que le Seigneur me vienne au secours. Alléluia. Et nous devons toujours nous souvenir, Satan est aux aguets pour te faire douter. Toujours. Si tu n'es pas bien branché, il y a un problème. Et si tu ne fais pas attention à ton ennemi qui est là, qui ne veut pas que tu puisses obtenir ta bénédiction, qu'est-ce qu'il voudra faire? Il voudra te faire douter. Alléluia. Qu'on se souvienne de Jacques 1, versets 1 à 2. L'épreuve de notre foi, n'est-ce pas? L'épreuve de notre foi doit produire la patience. Ah! Dans Hébreux 11, comment est définie la foi? Hébreux 11, verset 1er, on nous dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous avez quelle compréhension de cette définition? Moi, j'ai compris que la foi, c'est la porte entre le monde visible et le monde invisible. Alléluia. Ah oui. Donc la foi fait le pont. Alléluia. Quand tu ouvres la porte de la foi, Dieu entre en action. Alléluia. Quand tu la fermes, et Dieu n'entre pas. Vous avez compris? La foi, la compréhension que j'ai maintenant de cette écriture, la foi, c'est la porte entre le monde le monde visible et invisible. Elle fait le pont. Quand tu l'ouvres, Dieu entre en action. La foi permet à Dieu d'intervenir. Alléluia. Souvenez-vous de cet épisode de la marche sur les eaux avec Pierre. Voyez-vous? Quand il avait ouvert la porte de la foi, il a marché sur les eaux, n'est-ce pas? Mais quand il a fermé, il commence à sombrer. Alléluia. Ah oui, il faut être prudent. Quand il a ouvert la porte de la foi, ah Seigneur, c'est toi. Voilà. Mais quand il a fermé la porte, en voyant les vagues et tout ça, et le Seigneur aussi s'est arrêté. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Ah oui. Ce sont là les réalités de la parole. On n'invente rien. Ce sont les réalités de la parole. Quand Pierre a ouvert la porte de la foi, Dieu est entré en action. Et quand il a fermé la porte, il commençait à sombrer. Alléluia. Dieu accepte la foi et la récompense. Quand votre foi est en action, il n'y a plus autre chose qui peut arrêter Dieu. Il faut qu'il entre en action. Il faut qu'il intervienne. Alléluia. Analysons notre dernier matériel. Non, on n'a pas encore fini. Je disais, Dieu accepte la foi et la récompense. Par ailleurs, là où tu demandes à Dieu, Seigneur, réponds-moi, donne-moi un signe, coûte que coûte. Mais Dieu reste muet. Alléluia. Alors qu'il y a une promesse claire. Quand le malheureux crie, Dieu entend. Mais Dieu reste muet. Souviens-toi que dans le livre de Proverbes 16, 4, il est écrit, Dieu ne fait rien pour rien. Alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait a un but. Mon frère et ma soeur, je veux que tu saisisses ce soir. Il y a un sens dans le silence de Dieu. Puisqu'on vient de voir, Dieu ne fait rien pour rien. C'est pourquoi j'affirme qu'il y a un sens dans le silence de Dieu. Il veut tout simplement t'apprendre quelque chose. Alléluia. Malheureusement, tu n'es pas prêt. Tu es dans ton problème. Sinon, aveuglé par ton problème. Alléluia. Conseil. Apprends les silences et tu apprendras à l'entendre. Alléluia. Apprends les silences et tu apprendra à l'entendre. Troisième matériel didactique de ce soir, il faut que je termine, je ne veux pas arrêter. Je ne peux pas faire de prédication pour ça, je dois terminer ça ce soir. Supportez-moi un peu. Troisième matériel didactique de ce soir face au silence de Dieu, sophonie. Supportez-moi un peu. Sophonie 3, verset 17. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit ceci. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Alléluia. Encore un verset avec beaucoup de promesses, n'est-ce pas? Un verset avec beaucoup de promesses, mais il est écrit que Dieu gardera le silence dans son amour. Ah! Ah oui! C'est une réalité biblique que Dieu regardera le silence dans son amour. Le silence de Dieu, bien sûr, fait peur. Alléluia. Ça fait penser à la solitude. Il te place face à toi-même. Tu supplies. Tu menaces. Tu donnes même des ultimatums à Dieu. Ah, mais tu sais, si tu ne fais pas ceci, je ne viendrai plus à l'assemblée. Oh là là! Mais Dieu ne cessera pas d'être Dieu quand tu ne viendras plus à l'assemblée. Aïe. Si à telle date, je ne vois pas ceci, moi, je ne viendrai plus à l'assemblée. Oh, mais l'esprit qui t'anime en ce moment-là, c'est un esprit de l'enfer. Alléluia. Puisqu'il a dit, il gardera le silence dans son amour. Alors toi maintenant, par ton état un peu, enfin, je ne dis pas les mots, et tu dis, alors si tu ne le fais pas, Seigneur, moi je ne viendrai plus à l'assemblée. Oh, mais cher ami, mais Dieu, il est Dieu. Lui, il est le créateur. Et toi, tu es sa créature. Et tu commences à lui donner des ultimatums. Si tu ne fais pas, je fais. Oh là là, vous comprenez mieux ça, hein? Donc, pendant ton épreuve, mais tu es devant un silence comme au cimetière. Alléluia. Résultat des courses, comme Satan aussi est toujours derrière toi, il dit, mais tu vois, hein, t'aimes pas, hein, ça ne sert à rien. Tu as perdu ton temps pendant tout ce temps que tu as donné ton cœur à Christ. Reviens. Hein? Reviens, regarde ici d'ailleurs. On va te proposer un job, une voiture flambant neuf. Voilà quoi. Tu auras tout. Allez, reviens. Reviens. Tu as beaucoup perdu, hein? Tu vois, regarde l'ami là. Il a construit un immeuble à trois étages, hein? Tu vois l'agence que tu vois là-bas, de l'autre côté. C'est pour lui aussi, hein? Ah! Mais frère, pas de marche arrière, hein? Attention, attention, nous avons dit l'histoire de la femme de Job. Ce dernier regard va t'amener à l'enfer. Tu seras transformé en bloc de sel. Fais attention. Alléluia. Frères et sœurs, je voulais te dire une chose. Tout le monde ici a été à l'école ou va à l'école, n'est-ce pas? Est-ce que, au moment où nous faisons des épreuves, les profs parlent? Mes frères, quand vous passez les épreuves à l'école, les profs parlent. Le prof reste silencieux. Alléluia. Kéraya. Si tu continues à poser des questions, tu auras zéro. Dépose ta feuille et sors. Voilà. Tu déposes ta feuille ici, tu sors. Les explications ont été données lors de la révision. Alléluia. On a eu le temps pour revoir la matière. Maintenant, c'est le test. Le prof ne parle pas. Et comment voulez-vous, quand il te fait passer les plaies, maintenant tu veux qu'il parle? Hein? Oh! C'est quoi ça? Le prof ne peut pas parler. C'est le moment de l'épreuve. Ah, maintenant, fais montre que tu as maîtrisé des compétences par rapport à tout ce qui a été donné. Alléluia. Le prof ne parle pas. Comme ça, tu le sais, ma soeur. Tu le sais, mon frère. Tu te dis, ah oui, je suis dans l'épreuve. Ah oui. Je suis dans l'épreuve. Donc, le prof ne peut pas parler. Si tu n'es pas capable de supporter le silence de Dieu, tu ne seras jamais qualifié pour les épreuves de la vie. Hein? Tu ne seras jamais qualifié pour les épreuves de la vie. Cet exemple que je viens de te donner ce soir, que lors d'une épreuve, le prof ne parle pas, il faut le transférer dans ta vie spirituelle. Il y a des enseignements qui sont donnés, mais à un certain moment, bon, on dit, bon, c'est l'heure de l'épreuve pour voir si les élèves ont maîtrisé les compétences qui ont été proposées dans ces modules-là. Voilà. Et vous voulez que je parle? Non. Je ne parle pas, ma soeur. Je ne parle pas, mon frère. C'est le moment de l'épreuve. Alléluia. Le silence est déchirant, ça c'est vrai. C'est très compliqué à vivre, hein? Hein? Vous ne me comprenez pas, vous ne savez pas par où je traverse. Mais oui, mes frères, par où tu traverses, mais c'est ton épreuve. Hein? Par où tu traverses, oui, je sais bien. Tu veux que je sois l'ami de Job pour venir faire des bruits alors que je ne peux rien dire. Hein? Vous voulez que je sois comme les trois amis de Job qui sont venus le voir? Mais vous avez constaté, restez calme et sortez. C'est mieux que de commencer à dire des bêtises. Je sais que c'est très compliqué à vivre, mais tu as intérêt à passer par le silence pour comprendre les réalités de la vie. Alléluia. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alléluia. C'est comme le faire l'habitude de le dessiner. Quand. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, sommet de mes vallées. De mes vallées. Voilà. Quand on a compris, parfois, les paroles ne sont plus nécessaires. Alléluia. Quand on a compris, parfois les paroles ne sont plus nécessaires. Un élève qui a étudié, un élève qui a maîtrisé sa matière, dès que les feuilles sont distribuées, il attend la permission. Je peux commencer? Paf! Il se met au boulot. Il se met au boulot. Mais celui qui s'agite, il va chercher à sortir des copions. Allez voir un peu à Matongé, qu'est-ce qui se passe? Ce sont là les copions. Un petit tour à Matongé, un petit tour à l'abattoir, alors qu'il devrait rester là. Face au silence de Dieu, Dieu s'était, c'est vrai. Mais il est aussi écrit dans Job 33, verset 14, que Dieu parle tantôt. Nous connaissons les versets, n'est-ce pas? Et Dieu parle. Mais c'est quand même une réalité. Pour que tu t'approches de quelqu'un, il faut qu'il y ait une distance. Alléluia. Pour que tu t'approches de quelqu'un, il faut qu'il y ait une distance. Et là-dedans, il y a des choses que tu dois maîtriser pendant ce silence. Il y a une distance qu'on observe. C'est pourquoi Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu, n'est-ce pas? Hein?
Approchez-vous de Dieu. C'est qu'il y a une distance entre vous et Dieu. Alléluia. Donc, ce sont des moments d'apprentissage. Ça, approchez-vous de Dieu. Ce n'est pas qu'en dormant. Non. Ce sont des moments de méditation. Ce sont des moments de cantiques qui montent vers Dieu. Ce sont des moments de lecture approfondie. Alléluia. Le silence est là pour voir jusqu'où es-tu capable de confier tes problèmes à Dieu et de les laisser agir à l'heure et à temps à ta place. Alléluia. Apprends, mon frère, ma soeur, réapprends chaque jour que la confiance en Dieu ne reste pas sans réponse, affirme David dans le psaume 25, les trois premiers versets. Alléluia. Apprends, réapprends chaque jour que la confiance en Dieu ne reste pas sans réponse. David affirme cela dans le psaume 25, versets 1 et 3. Alors, mon frère, ma soeur, je veux terminer. Pendant ces 5 minutes qui nous restent, je veux terminer ce message en attirant ton attention en disant que le silence de Dieu ne signifie pas absence de parole. Alléluia. Le silence de Dieu, mon frère, ma soeur, ne signifie pas absence de parole. Voici ce que l'Esprit te conseille. Imprègne-toi d'abord de la relation. Alléluia. Imprègne-toi d'abord de la relation. Entre dans l'intimité de la relation. Alléluia. Entre dans l'intimité de la relation. Je vous renvoie toujours à Élie, dans la caverne. Comment il a entendu la voix du silence. Donc, ça nécessite que tu t'imprègnes d'abord de la relation, entre dans l'intimité de la relation, tu découvriras tôt ou tard la signification du silence de Dieu. Reste donc calme. La réponse, il faut la rechercher, n'est-ce pas? Quand tu recherches la réponse, il faut s'attendre à la recevoir. Ah oui, quand tu cherches la réponse, il faut s'attendre à la recevoir. Mais ça demande la docilité et bien se préparer à la recevoir. Alléluia. Ça demande la docilité et bien se préparer à la recevoir. Vous savez, dans le message conduit par l'Esprit, quand le prophète prend l'avion pour... Il partait où ça? Il partait, il était sur le chemin vers Dallas. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui priait pour son enfant qui avait la maladie vénérienne. Comment le Seigneur l'a conduit. Voyez-vous, il est resté calme en ce moment-là. C'est-à-dire, le monsieur s'est imprégné d'abord de la relation. Il est entré dans l'intimité de la relation. Et maintenant, Dieu le conduit par l'Esprit. Il est capable d'entendre ce que Dieu est en train de lui dire. Alléluia. Je disais. La réponse, il faut la rechercher et s'attendre à la recevoir. Mais ça demande la docilité. Eh bien, se préparer, chef, pour recevoir la réponse. Alléluia. La réponse peut être sur la table, mais comme tu es distrait, tu ne la vois pas. Amen. Alors, voilà ce que je veux dire en dernier lieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que c'est Dieu qui s'était réellement ou ce sont mes oreilles qui n'entendent pas? Ah! Est-ce que c'est Dieu qui s'était réellement ou ce sont mes oreilles qui n'entendent pas? Ah! À toi et moi de tirer les conclusions. Voilà pourquoi il y a lieu d'apprécier le silence de Dieu. Il y a un message à apprendre certainement. Alléluia. Face au silence de Dieu, nous avons utilisé trois matériels didactiques pour essayer de présenter ce silence de Dieu sous diverses facettes. Alléluia. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. J'aurais bien voulu chanter avec vous, mais comme Frère Tombo n'est pas là, je vais seulement chanter le refrain. Enseignez-moi